J'invite maintenant Céline Zuber-Roy, ancienne coprésidente de l'Assemblée constituante genevoise, membre de la Commission des droits de l'homme, droits de la personne du Grand Conseil, qui va modérer le second panel et qui invitera les panélistes, si ça convient.
Merci beaucoup. Effectivement, donc nous allons passer au deuxième panel qui vise à débattre de la mise en œuvre de l'article 42 qui prévoit l'évaluation des droits fondamentaux. Nous avons la chance que la société civile ait fait ce premier travail et la question qui se pose, c'est comment à l'avenir ça doit être fait. Pour cela, j'ai le plaisir d'inviter les trois intervenants. Tout d'abord, je vous propose de venir vous installer. Tout d'abord, Madame Patricia Schulz, qui est avocate de formation, ancienne chargée d'enseignement à l'Université de Genève. Elle a été directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre hommes et femmes durant 16 ans. Et ensuite, elle a été la première Suisse, membre de la Suisse, au comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, où elle a fait deux mandats qui s'est terminé l'année passée. Elle a reçu un doctorat honoris causus de l'Université de Berne pour l'ensemble de son travail sur l'égalité de genre en 2016. Et donc, nous aurons la chance, grâce à sa longue expérience de l'évaluation des droits fondamentaux, qu'elle puisse nous parler de ce processus et faire la parole avec ce qui pourrait être fait à Genève. Je vous propose de lui donner la parole et ensuite je présenterai les autres intervenants au fur et à mesure que je leur donne la parole. Merci beaucoup.
Tout d'abord, un grand merci aux organisateurs de ce débat pour leur invitation. J'ai accepté tout de suite parce que ça me passionnait de voir ce qu'on peut faire au niveau cantonal après avoir une expérience fédérale et internationale. Et j'aimerais féliciter la société civile pour son initiative et pour ce travail tout à fait remarquable. Ça confirme toutes mes expériences. La société civile, c'est le sel de la vie et c'est souvent ces personnes qui manifestement sont les plus intéressées dans la réalisation des droits fondamentaux aux droits humains. Moi, je suis totalement convaincue de la nécessité de l'évaluation périodique indépendante. J'en ai participé à de telles évaluations au niveau de la législation fédérale pour la loi sur l'égalité. Et surtout, j'ai vu le travail pendant 8 ans au sein du comité de l'ONU sur l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Donc, une évaluation périodique indépendante, c'est l'occasion de vérifier les actions d'efficacité ou leur inefficacité, la validité des choix, l'existence ou non d'indicateurs qui permettent la mesure du succès ou de l'échec. Et surtout, ça permet aussi de revenir aux questions de redevabilité et de responsabilité. Qui est responsable de quoi? Alors, par rapport à l'évaluation prévue par l'article 42, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on l'a prévue, mais il n'y a pas d'organisme, il n'y a pas d'organe chargé de la réaliser. Donc, est-ce que moi, comme expert des droits humains, je pourrais proposer que tous les 2 ans, tous les 4 ans, j'en fasse une périodique, indépendante? Non, c'est pas ça. Donc, ce qu'il faut, me semble-t-il, comme première question, c'est se poser la question de l'appropriation des recommandations qui seront issues du processus d'évaluation. En effet, pour qu'il y ait appropriation, il faut que les acteurs concernés aient participé. Sinon, ils ne vont rien faire. Et ça vaut pour les autorités publiques. Et il faut bénéficier, évidemment, de la compétence de la société civile. Pour que l'évaluation ait un poids, il faut qu'elle émane d'un organe reconnu par les instances étatiques et les autres entités qui sont chargées de la mise en œuvre. Donc, si j'en viens à la question de l'organe compétent qu'il faudrait mettre en place à Genève, je me dis en tout cas pas un ou une consultante qui serait chargée de l'évaluation des 39 droits fondamentaux qui sont contenus dans le titre de la Constitution. Pourquoi pas une personne seule? Et non plus, pourquoi pas une institution qui serait mandatée, un bureau privé ou une aile de une partie de l'université, un institut, le Graduate Institute ou n'importe. Pourquoi pas cette solution? Parce que de l'expérience que j'ai faite, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de mémoire institutionnelle, il y a un gros risque qu'il n'y ait pas d'appropriation par les autorités politiques, parce qu'elles se sont détachées de ce processus, elles n'ont pas été assez associées. Il y a un problème pour la périodicité, surtout s'il n'y a pas de planification précise, il y a un risque de double emploi, on va donner une fois un mandat à telle institution et une fois un mandat à telle autre institution, pour tel droit, pour tel autre, sans voir les liens forts qui existent entre les différents droits fondamentaux. Donc, out pour ces solutions-là. Une commission parlementaire, et je sais qu'au Grand Conseil, il existe la commission des droits humains. Là, je pense qu'il y a des problèmes en termes déjà simplement de ressources de temps, de ressources de compétences, de composition, de légitimité, le risque de la politisation aussi. Donc, ça me paraît en l'état pas véritablement faisable. Mais par contre, une telle commission pourrait être associée au développement du mandat donné à une autre instance. La Cour des comptes. Quand j'ai regardé la Constitution, j'ai regardé les articles 128-131 qui prévoient l'existence de la Cour des comptes. Alors, comme son nom l'indique, elle s'occupe effectivement surtout du bon usage de l'argent public, mais l'article 128, paragraphe 3, in fine, prévoit qu'elle est responsable de l'évaluation des politiques publiques. Ça permettrait sans autre de la charger de l'évaluation des droits fondamentaux, des politiques publiques en matière de droits fondamentaux. Négatif, elle n'a certainement pas les ressources pour le faire. Ensuite, elle choisit ses sujets. Donc, devoir évaluer et devoir évaluer périodiquement, et en plus les articles 14 à 41 plus 43, serait une contrainte non prévue dans les articles de la Constitution qui visent cette Cour des comptes. Et ce serait une lourde charge. Donc il faudrait augmenter substantiellement les ressources et peut-être préciser le mandat. On pourrait imaginer de faire deux chambres, une chambre qui s'occupe des tâches que la Cour des comptes effectue actuellement et une chambre qui effectuerait l'évaluation des droits fondamentaux. L'avantage d'une telle solution, c'est que la Cour des comptes existe, elle est indépendante, elle a des ressources avec ses trois magistrats, ses trois suppléants et une équipe de spécialistes. Elle a une méthodologie bien rodée, elle pourrait être complétée pour les droits fondamentaux. Une autre possibilité, m'a-t-il semblé, ce serait de créer un observatoire, une commission mixte permanente et indépendante qui serait composée d'une partie de l'administration, de personnes émanant de l'administration et de la société civile. Pourquoi émanant de l'administration? Parce que de mon expérience, et j'ai dirigé les travaux pour la... le premier rapport de la Suisse au comité de l'ONU sur la discrimination à l'égard des femmes, c'est l'administration qui détient l'essentiel du savoir. Et même, je répète, votre rapport est tout à fait exceptionnel, mais il y a des tas d'informations auxquelles vous n'avez pas eu accès parce que ce n'était pas l'administration. Donc, la nécessité d'associer l'administration pour avoir accès à tout son savoir. Et puis, ça permet aussi, si on a la société civile, encore une fois, d'avoir le regard critique, d'avoir des apports indispensables. Les moins d'une telle solution, c'est qu'il y aurait peut-être un combat sur la création d'un tel système, sur la désignation de ses membres, sur les ressources, sur le mandat, sur le lien avec la Cour des comptes pour éviter des risques de double emploi. Les plus, probablement la crédibilité d'une telle institution, l'accès aux informations, et on pourrait imaginer que ce soit un programme de travail sur les 39 articles à évaluer tous les deux ou tous les quatre ans. Tous les deux ans, je pense que c'est trop bref comme périodicité, tous les quatre ans, c'est plus raisonnable, mais on pourrait aussi étendre ou diffuser plutôt l'évaluation au fur et à mesure en faisant des paquets d'articles qui sont liés intrinsèquement les uns avec les autres. Donc une année, tous les quatre ans, on examinerait la formation, le travail, etc. Et une autre année, on examinerait autre chose. Voilà, ça me paraîtrait des solutions possibles. Donc si je résume, je pense qu'il faudrait un organe permanent. Ça, c'est une observation que j'ai faite en voyant au niveau de l'administration fédérale la préparation et la mise en œuvre de tous les rapports de la Suisse aux différents organes de traité, pour les traités auxquels la Suisse a ratifié. Et on le voit aussi dans beaucoup de pays. Les pays dans lesquels il y a le meilleur suivi, où ça roule le mieux, sont des pays dans lesquels il y a une structure permanente. Donc ça, je pense que c'est important. Ça garantit la mémoire institutionnelle, ça garantit la compétence. Il y a des gens qui entrent et des gens qui sortent, mais il y a toujours des anciens pour enseigner au nouveau. Ça garantit la crédibilité et ça doit permettre la périodicité. Mon dernier, deux choses encore. La mise en œuvre de l'article 42, je pense que c'est une tâche étatique. Donc je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu la création, dans les travaux de la Constituante, pas le temps ou pas la possibilité de discuter qui ferait cette évaluation indépendante, encore une fois, avec la société civile. Mais je pense que c'est vraiment une responsabilité étatique. Et compte tenu des lourdeurs et des lenteurs pour mettre en place les structures en Suisse, et à Genève en particulier, suivant la modalité choisie, on pourrait imaginer de faire un projet pilote pour tester l'utilité de telle voie ou de telle autre voie. Et enfin, et c'est mon dernier point, tous les cantons sont consultés par les départements ou les organes fédéraux quand ces derniers préparent un rapport de la Suisse à un de ces comités onusiens ou bien à un comité européen. Donc là, il y a une énorme masse d'informations qui doit être, qui peut être utilisée. Vraiment, ça vaut la peine, ça évite de faire des doublons et beaucoup de travail. L'information est là, mais il faut arriver à la déterrer de cas administratifs dans lesquels elle est parfois bien cachée. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour toutes ces suggestions et éclairages. Notre deuxième intervenant est le professeur Michel Hôtelier. Il est professeur à l'Université de Genève, spécialiste du droit public, en particulier de droit constitutionnel et des droits de l'homme. Il est ancien constituant, il était membre de la commission chargée des droits fondamentaux ainsi que de la commission de rédaction. À ce titre, il a donc participé à l'introduction dans la Constitution de l'article 42, qui est donc sur l'évaluation. Et je lui cède le plaisir de parler.
Merci, Céline. Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'abord pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. J'ai pris connaissance, j'ai commencé à prendre connaissance du rapport hier, quand j'ai reçu. Je l'ai reçu par voie virtuelle. Avec ma vision défaillante, je n'ai pas eu le temps ni la capacité de tout lire. Mais ce que j'en ai lu et ce que j'en ai entendu ce soir, maintenant que j'ai le texte écrit à disposition, me permet de m'associer évidemment à toutes les félicitations pour ce travail vraiment remarquable, absolument remarquable, à ma connaissance inédite à Genève sur la question des droits fondamentaux. Et ben voilà, comme ça fait un peu vieux combattant, excusez-moi, mais comme ancien constituant, et toujours citoyen de cette République et canton de Genève, je trouve que c'est un travail vraiment de première importance, qui montre aussi l'utilité de ce catalogue de droits fondamentaux que nous avons intégré dans la nouvelle, enfin, chaque jour un peu moins nouvelle, mais la nouvelle constitution genoise. Je vais être assez bref, d'accord qu'il faut vous méfier quand un juriste dit qu'il va être bref, c'est assez mauvais signe. Et je vais essayer de me faire violence, j'ai pris quelques notes et j'aimerais présenter la situation par rapport aux questions qui m'ont été posées par les organisateurs en deux points. J'aimerais quand même revenir assez brièvement sur cette notion de droits fondamentaux, parce que j'entendais M. Gers tout à l'heure en parler, c'est dommage qu'il ait pu nous quitter. Je crois qu'il faut quand même revenir quelques instants sur ce concept-là, avant de passer aux questions de l'UGM. Et puis ensuite, bien sûr, j'en viendrai à cette question de l'examen périodique indépendant. Forme l'objet du rapport qu'on a publié ce soir. Alors, d'abord, au niveau de la Constituante, une des questions qui ont émaillé nos travaux dès le début, c'était de savoir, faut-il un catalogue de droits fondamentaux dans la Constitution genevoise ? On sait qu'on a à peu près tout ce qu'il faut en droit fédéral, on sait qu'on a de plus en plus de choses en droit international, et puis on sait dans le même temps que dans les cantons qui ont révisé leur Constitution, eh bien, les catalogues de droits fondamentaux qui y figurent souvent ne sont simplement pas appliqués. Donc, cette question nous a retenu assez longtemps, et je regarde mon cher collègue, ex-collègue, je crois toujours ami, Yves Lador, et aussi Cyril Misraille, puisqu'on siégeait notamment à la commission thématique une chargée de cette question. Il y a eu assez rapidement quand même un consensus pour diverses raisons, alors dont je vous épargne le détail, pour dire oui, à Genève, il faut, dans cette constitution, notamment par tradition historique, un catalogue de droits fondamentaux. Alors, quel contenu ? Est-ce qu'on reprend ce qui existait à l'époque de James Fazi et ce qui a été modifié depuis, ou bien est-ce qu'on fait vraiment un grand lifting, un toilettage ? Bien sûr, on a toiletté, on a doté cette constitution d'un catalogue, je crois, moderne, qui se veut assez performant, et surtout, et c'est ça qui est important, qui comprend un certain nombre d'innovations, que ce soit sur le terrain des droits garantis ou sur le terrain des mécanismes qui président à leur mise en œuvre. Alors, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit brièvement, la question du statut des personnes en situation de handicap, il n'y avait rien dans la constitution genevoise. La question des droits de l'enfant, il n'y avait rien. La question de l'environnement sain, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. Hein. La conscience climatique qui se fait jour, un peu plus jour, chaque jour dans notre vie actuelle, n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui. Donc voilà quelques-unes des innovations. Mais en même temps, l'idée était de dire que ce catalogue n'est pas un décorum. On veut des droits qui soient suivis des faits. C'est-à-dire qu'on veut vraiment des droits qui soient des droits fondamentaux, des prérogatives juridiques qui peuvent être suivies des faits. Et tout ce que j'ai entendu tout à l'heure à propos du premier panel de cette belle réunion montre effectivement à quel point il y a des attentes et aussi encore des insatisfactions et des progrès à accomplir dans ce domaine-là. Toute une série de mesures ont été prises dans ce contexte. On a voulu ancrer, ça déborde le cas des droits fondamentaux, mais je crois que par les temps qui courent, ce n'est pas inutile de le rappeler dans notre vie politique cantonale. On a voulu un état de droit à Genève, fondé sur la légalité, sur le respect des règles de droit, avec une accentuation de ce concept, notamment dans le domaine des droits fondamentaux. On a voulu ce catalogue, qui est un catalogue de droit, j'y reviens dans un instant. Au niveau de la mise en œuvre, il y a l'article 42, qui est une première suisse, effectivement, sur cette évaluation périodique. Et puis, il y a avant l'article 41. On a ici suivi ce qui se fait au niveau des droits humains sur la scène internationale avec le triptyque Respect, Protect, Fulfill, respecter, protéger, mettre en œuvre, avec un cortège d'obligations juridiques qui sont sous-jacentes à ces dispositions qui recèlent leur potentiel vraiment extrêmement important. On a créé aussi une cour constitutionnelle, dont je crois l'actualité nous démontre au passage la pertinence et l'actualité. Je me réfère à le dernier arrêt qui a été rendu la semaine dernière dans le domaine des droits politiques. On est au cœur même des droits fondamentaux. Et voici donc une série d'innovations qui ont été injectées dans le texte de la Constitution. Et l'article 42, c'est ma deuxième partie, j'y viens à présent, s'inspire de cette volonté quelque part novatrice. C'était, en tout cas moi, je peux en faire l'aveu maintenant, après toutes ces années, il y a prescription. C'était un petit peu le fil rouge pour les constituants, parce que quand on disait qu'on ne voulait rien changer par rapport à la constitution antérieure, tout le monde nous tombait dessus, notamment, c'était pas dans ma formation politique, vous ne voulez pas changer, mais alors il faut à quoi vous servez, et les médias en ont rajouté une couche. Et puis quand on apportait quelque chose de nouveau, les districts à la place des communes, notamment, rappelez-vous les débats homériques sur cette question, et on dit « Ah, mais alors vous êtes fous, vous allez beaucoup trop loin ». Avec l'article 42, on a voulu viser, si je puis dire, là, un peu au milieu, par rapport à cette tangente, pour avoir quelque chose qui fonctionne. On s'est inspiré, et ça je crois qu'on le doit notamment à Yves Lador, je crois qu'il était un des premiers à participer en commission, on s'est inspiré de ce qui se faisait, et ce qui se fait toujours aux Nations Unies. Pas spécifiquement le PU, pas spécifiquement l'examen périodique universel, parce qu'à l'époque, le Conseil des droits de l'homme était en création. Alors, il y avait la commission antérieure et tout, on savait ce que ça allait donner, mais c'était encore un peu sur la, je dirais, un petit peu une terre inconnue. Par contre, on s'est très largement inspiré du modèle des treaty bodies, c'est-à-dire des comités des Nations Unies, comme le comité CEDAW, auquel Patricia Schulz a participé activement pendant de nombreuses années. L'idée ici, et il faut le rappeler, j'en reviendrai dans ma conclusion dans une seconde, c'est d'avoir une vision des droits fondamentaux, des droits de la personne humaine, qui ne soit pas uniquement subjective, fondée sur un contentieux qui trouve son épilogue devant l'administration ou devant les tribunaux. Bien sûr que ça c'est toujours valable et on ne l'a pas changé, mais d'avoir une vision plus large, plus enveloppante, plus dépassionnée, plus globale, plus neutre, avec une évaluation objective de ces droits considérées comme des normes juridiques objectives et même dotées d'une portée institutionnelle. Ça a été relevé tout à l'heure pour la question du droit au logement, par exemple. On sait qu'il existe depuis bientôt 30 ans dans la Constitution genevoise. C'est une disposition qui n'a jamais été appliquée. On le sait pour le droit à un environnement sain, c'est pas forcément évident de pratiquer dans le cadre d'un contentieux le droit à l'environnement sain dans une affaire opposant monsieur ou madame X à l'administration municipale. Cette importance, ça existe, mais on sait que ça ne suffit pas. Donc, pour des garanties comme celle-ci, mais pas uniquement, on s'est dit qu'il faut doubler, compléter cette vision contentieuse qui passe généralement par le filtre des tribunaux, hein, et qui peut trouver son épilogue au tribunal fédéral ou à la Cour européenne des droits de l'homme, ou devant l'un des comités des Nations Unies pour les instruments auxquels la Suisse a adhéré. L'idée ici, c'est d'avoir une évaluation globale qui permette de considérer, et j'y viens, ça a été dit, mais je crois que tout est là, que les droits fondamentaux, ce n'est pas seulement les droits de la personne humaine, du citoyen de l'époque, ce sont de véritables politiques publiques. On y est. Et c'est exactement ça que vise l'article 42. C'est une politique publique des droits fondamentaux qui vise à permettre, et je rejoins entièrement ce qu'a dit Patricia Schulz il y a un instant, à un organe institutionnellement établi, alors selon quelle modalité, je vais y venir dans une seconde, de porter un regard indépendant et compétent sur la pratique des droits fondamentaux, sur ce qui a été fait, et bien entendu sur ce qui reste. Voilà ce que je voulais vous dire assez brièvement. Vous m'excuserez d'aller assez vite, parce que tout le monde commence à être aussi un petit peu fatigué. Puis il faut laisser de la place pour le débat. Je termine juste avec deux questions, parce qu'elles sont revenues à plusieurs reprises dans les interventions précédentes. Première question, est-ce qu'il faut légiférer pour mettre en œuvre l'article 42 de la Constitution? Est-ce qu'il faut une loi du Grand Conseil qui crée un organisme nouveau qui serait investi de cette compétence d'évaluer périodiquement les droits fondamentaux? Je vous donne une réponse de juriste, ça dépend. Ça dépend comment on comprend la disposition. Bien entendu, une loi serait souhaitable. En tout cas, moi, au sein de la CT1, la Commission thématique 1 et en plénière, c'est dans ce sens-là que j'ai voté l'article 42. Il ne suffit pas d'avoir quelques inputs comme ça dans la Constitution, quelques mots, pour que ces mots soient suivis des faits. Il faut un suivi institutionnel qui passe par les acteurs élus, le Grand Conseil, mais aussi au niveau municipal, les conseils municipaux. Donc, je serais partisan de l'adoption d'une loi qui mette en musique, qui mette en œuvre cette disposition. Mais alors, il faut savoir qu'il y a un coût. Ça prend du temps. On ne sait pas ce qu'on va avoir au final, puis on ne sait même pas si on va avoir quelque chose. Parce que si c'est une loi, par les temps qui courent, elle est passible du référendum, et vous connaissez la suite de l'histoire. Réponse, ça dépend. D'un autre côté, on n'a pas besoin d'une loi. On peut commencer, je répète ici, je m'excuse, chère Céline et chère Cyril, je répète ce que j'ai dit devant la commission des droits de l'homme quand j'ai été auditionné sur cette question avec mon collègue Thierry Cantrel. On pourrait passer par une approche inverse, qui vise à commencer, c'est ce qui se fait ici ce soir, par des mesures qui sont des mesures spontanées venant de la société civile, qui viennent, j'allais dire, du bas vers le haut, de la société sur le terrain, d'associations, notamment toutes celles qui ont participé à ce rapport, pour pointer les problèmes, les porter à la connaissance des autorités compétentes, pour que celles-ci, dans un premier temps, décident des mesures à prendre, et qu'ensuite seulement, après avoir évalué ce que donne ce processus, on instaure une mécanique institutionnelle qui permette d'effectuer cette évaluation des politiques. Alors, tout dernier mot, et après je votais, promis, quel organe peut ou doit opérer cette OPI, hein, cette évaluation périodique indépendante? Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs mécanismes envisageables. Moi, je trouve que l'idée de la Cour des comptes n'est pas un mauvais plan. En tout cas, si vous lisez l'article 128 alinéa 3 de la Constitution genevoise, l'évaluation des politiques publiques fait partie intégrante des compétences de cette instance, qui n'est pas une juridiction, mais qui est clairement indépendante. Alors c'est vrai qu'il s'occupe de questions essentiellement financières, je ne l'ignore pas, mais je n'exclus pas que ce genre de questions puisse rentrer dans le cahier des charges, au moins dans un premier temps de la Cour des comptes. Mais alors, je vous donne mon rêve, et au fond, voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut finir ce soir. Je pense que le débat sur l'article 42 rejoint un autre débat, beaucoup plus large, qui a cours en Suisse actuellement au niveau national, et sur lequel pour l'heure il n'y a pas de solution qui se dessine, c'est la création d'une institution nationale des droits de l'homme. une institution indépendante à l'échelon national qui vise à faire hein, globalement le travail qui se fait en micro ici au niveau d'un canton hein, et de communes par examen périodique indépendant. Alors, je ne dirais pas qu'il faut ici une institution nationale des droits de l'homme, encore que l'Université de Genève s'est engagée dans ce sens quand elle a été consultée sur cette question par le Conseil fédéral, mais pourquoi pas une institution cantonale des droits de l'homme, dont les compétences seraient définies par la loi et qui pourrait tirer profit de tout ce qui figure déjà dans ce rapport-là, qui est en point d'aboutissement pour tous les travaux qui ont été accomplis, mais qui est évidemment en point de départ aussi pour une évaluation périodique indépendante qui est appelée à se renouveler. Ce sont du moins les vœux que je forme. Merci beaucoup de votre attention et bonne soirée.
Merci beaucoup. Nous passons maintenant au troisième intervenant, Cyril Milvaï, qui est avocat, engagé depuis de nombreuses années auprès des associations pour les personnes handicapées. Il est également membre de la commission qui s'occupe des droits fondamentaux. Sa particularité dans ce panel, c'est d'être député depuis 2003, actuellement président de la commission des droits de l'homme, donc la commission qui s'occupe d'étudier la question de la mise en œuvre de l'article 42. Donc il pourra nous apporter cet éclairage particulier du législateur.
Merci, bonjour à toutes et tous, et aussi aux personnes qui peut-être ne se reconnaissent pas dans cette distinction de genre. Céline Duberroy a mentionné mes deux casquettes. Deux casquettes qui ont quand même le point commun d'avoir une vision critique par rapport à la politique qui est menée au niveau des collectivités publiques à Genève. Et c'est aussi une chance de notre système politique, c'est que nous autres parlementaires, je le suis depuis 2013, pas depuis 2003, je précise, j'espère ne pas rester autant de temps, je ne suis pas non plus pour des mandats indéfinis. Donc oui, notre système politique a cette force qu'on n'est pas seulement des plantes hors sol, nous autres parlementaires, mais on est aussi issus de la société civile, et je vous en dirai quelques mots quand même pour commencer. Mais avant tout, avant d'aller plus loin, j'aimerais quand même faire quelques remerciements, pas très longs, rassurez-vous. Tout d'abord, remercier Regard pour cet important travail qui a été mené. Et comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Alain Boll, Regard a bien insisté aussi auprès de la FEGAF, donc la Fédération Genevoise des Associations de Personnes Handicapées et de leurs proches, dont je suis vice-président, pour le rendu de la contribution qui a donné lieu à ce que vous trouvez dans le rapport au titre de l'article 16, dont je dirai seulement quelques mots, mais je vous encourage aussi ensuite à consulter. Mais disons, au tout début de ce processus, et finalement, il y a quand même une personne qu'on n'a pas mentionnée jusqu'à présent, un ancien collègue constituant, qui à mon avis, sans qui peut-être rien de tout cela ne serait arrivé, c'est Alexandre Dufresne, qui a quand même lancé cette idée de l'évaluation périodique. Au début, c'était beaucoup plus large que les droits fondamentaux, et tout le monde le regardait un peu d'un drôle d'air. Qu'est-ce que tu me racontes avec ton histoire d'évaluation? Moi aussi, les gens me regardaient souvent avec des grands yeux quand je sortais certaines idées. Mais voilà, au final, cette idée a été un peu transformée, comme toutes celles qu'on a amenées, et ça donnait cet article sur l'évaluation des droits fondamentaux. Donc voilà, merci aussi à Alexandre d'avoir finalement lancé ce processus. Quelques mots donc sur les droits des personnes en situation de handicap. Un bilan, somme toute, assez modeste. Je dois quand même le dire parce que c'est quand même un des éléments qui a servi à vendre cette constitution, les droits des personnes handicapées. Et il faut reconnaître que le résultat est plutôt modeste. Alors qu'à Belleville, on a un projet de loi sur les droits des personnes handicapées qui fait office de modèle à l'échelon national. Et bien ici, à Genève, je dirais quand même, c'est un peu violent, mais les personnes handicapées ne sont pas encore vraiment considérées comme des titulaires de droits fondamentaux, mais ils sont surtout considérés comme des objets de politique sociale et sanitaire. Donc on prend en charge ces personnes souvent à l'écart de la société, et ça commence très tôt puisque les enfants sont toujours des enfants avec des capacités d'apprentissage, sont toujours exclus de l'école ordinaire pour être dans des écoles spécialisées dans lesquelles ils ne suivent plus le programme que suivent les autres enfants. Et cela commence par là et se poursuit ensuite par une exclusion qui dure toute la vie. Un collègue a parlé tout à l'heure de la question des curatelles. C'est aussi une forme d'exclusion qui perdure, souvent de manière injustifiée ou excessive, à la fois de la vie civile, des droits civils, mais aussi des droits politiques, dont il y a toujours quand même un bon nombre de personnes en situation de handicap psychique ou mental qui sont considérées comme des citoyens de seconde zone, voire des non-citoyens. Voilà, je vous renvoie au rapport pour le surplus, mais je voulais quand même dire quelques mots sur cette catégorie souvent un petit peu oubliée. J'en viens maintenant à la question de l'évaluation périodique. C'est un souci que la Commission des droits humains, on a toujours un débat sur la nomenclature, on parle toujours de Commission des droits de l'homme, je ne veux pas trop rentrer dans ce débat ce soir, on peut aussi dire Commission des droits de la personne. Enfin, cette commission, en tout cas, partage vraiment les préoccupations. On a eu l'occasion d'entendre aussi la coordination regard en commission au sujet d'un objet qui est la motion 2216, qui était une motion qui avait été élaborée par notre commission pour répondre à une première motion qui avait été déposée contre la suppression de l'Office des droits humains. Donc suite à cette première motion, la commission a rédigé une motion de commission pour demander qu'un inventaire soit fait, qu'un bilan soit fait plusieurs années après la suppression de cet Office des droits humains. Et finalement, ce qui est quand même ressorti de cet inventaire qui a été dressé par le Conseil d'État, dont le représentant n'est apparemment plus là pour entendre ce que je raconte, c'est un peu dommage, il est ressorti le manque criant au niveau de la coordination en matière de droits humains. On sait que l'Office des droits humains se chargeait notamment de réunir toutes les informations en vue des évaluations de la Suisse au niveau international. Pour Genève, il y avait cet Office des droits humains qui assurait notamment la collecte de l'information par rapport à cela. Et donc, ce manque au niveau de la coordination a suscité une réprobation, je crois qu'on peut le dire, de la Commission des droits humains, qui a renvoyé son dossier au Conseil d'État en disant que la réponse n'était pas satisfaisante et le Conseil d'État ne veut rien savoir. Je viens de voir le rapport. Le rapport intitulé M2216C, puisque plus on va dans le ping-pong et plus les lettres se vont de l'avant. Et donc ce rapport-là, le Conseil d'État persiste et signe, maintient sa position, dit qu'il n'y a aucun problème et que le Conseil d'État incorporé assure la coordination en matière de droits humains. Idem sur l'article 42, là encore le Conseil d'État ne veut absolument rien entendre. Le Conseil d'État nous a dit plusieurs choses dont on a entendu que ce n'était pas des bonnes solutions. Par exemple, le Conseil d'État nous a dit « Ah, mais vous, la Commission des droits humains, vous pouvez faire ce travail. » Non, pour les raisons qui ont été indiquées tout à l'heure. « Ah, mais l'ONU fait déjà ce travail. » Et Genève y participe, même si l'Office des droits humains n'est plus là pour collecter les informations à ce propos. Non, ce n'est pas suffisant. Ce qui a été voulu par le constituant cantonal, c'est bel et bien d'avoir une évaluation au niveau cantonal. Donc cette position-là, elle a été donnée par le Conseil d'État, tout d'abord dans le rapport numéro 1032, le rapport d'hiver 1032, sur la mise en œuvre de la Constitution. Donc c'était une obligation constitutionnelle, le Conseil d'État devait donner un programme de mise en œuvre. Dans ce programme, il n'y avait pas une trace de la mise en œuvre de l'article 42 l'évaluation des droits fondamentaux. La commission législative qui était chargée de traiter ce rapport n'a pas du tout goûté cette absence et c'est pourquoi elle a proposé au plénum de renvoyer cet objet au Conseil d'État, ce que le plénum du Grand Conseil a accepté en 2016 et je vous le donne en mille, évidemment il ne s'est rien passé depuis puisque contrairement à la procédure parlementaire en matière de motion, le Conseil d'État n'a aucune obligation finalement de répondre quand on lui renvoie un rapport jugé insatisfaisant par le Parlement. Finalement, et je vous donne en mille la seule exception, enfin le seul moment où la position du Conseil d'État a varié, eh bien, c'est lorsque Pierre Baudet était président du Conseil d'État. Lui, apparemment, était prêt à entrer en matière sur cette évaluation périodique, le même Pierre Baudet qui avait supprimé quelques années auparavant l'Office des droits humains. Donc je vous laisserai retirer les conclusions que vous souhaitez. Ce que je voudrais dire au final, c'est que la Commission des droits humains s'est saisie, puisqu'elle a la compétence de se saisir elle-même de problématiques qui intéressent les droits humains, elle s'est saisie de cette problématique de l'évaluation et de la mise en œuvre de l'article 42, et la Commission a procédé à plusieurs auditions et elle a estimé qu'il était nécessaire d'agir. Elle a estimé unanimement qu'il était nécessaire d'agir, et une majorité de cette Commission a estimé que le meilleur moyen d'agir était effectivement celui projet de loi. Alors, je ne vais pas vous dire exactement dans quel sens on va aller. Je vais laisser encore la Commission qui m'a donné son accord pour vous donner ces différents éléments. Je vais la laisser finir tranquillement ces débats. Je dirais simplement ma position personnelle. Je penche effectivement en faveur d'une commission qui serait proche des organes des traités. Cette filiation a été donnée par Michel Letellier et je pense qu'elle est juste. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas si coûteux que ça, qui n'est pas si lourd à mettre en place et qui permettra justement d'associer les différents acteurs, ce que ne permet pas en fait la Cour des comptes. Et effectivement, je comprends qu'il est tentant, puisqu'on parle d'évaluation, de penser à la Cour des comptes. Moi aussi, j'ai pensé à la Cour des comptes, mais en définitive, les deux types d'évaluation dont il est question sont vraiment des éléments très très différents. On parle d'un côté d'évaluation de politiques publiques qui sont faites par thématiques, et de l'autre côté d'une évaluation qui doit être globale au niveau des droits fondamentaux. Et je ne pense pas, malgré que je sois un grand partisan du travail de la Cour des comptes, très sincèrement je défends régulièrement, mais je ne pense pas que la Cour des comptes soit a priori le meilleur outil pour se charger de cela. Et puis, je finirai par une dernière adresse à Monsieur le Président du Conseil d'État, qui n'est malheureusement plus là non plus pour l'entendre. Il a mentionné tout à l'heure, mais je ne veux pas personnifier, je pense que c'est une responsabilité in fine de l'ensemble du Conseil d'État en réalité. Le Président du Conseil d'État a mentionné tout à l'heure l'enveloppe, le budget, 1,6 million qui est consacré à la solidarité internationale et notamment à la défense des droits humains de par le monde, et je trouve que c'est évidemment une très bonne chose, et loin de moi l'idée de poser ces deux choses, mais évidemment on ne sait pas quelle enveloppe est consacrée à la mise en œuvre des droits humains. Si vous regardez les différents programmes par politique publique au niveau budgétaire, vous ne verrez apparaître nulle part la question des droits humains. Et je pense que ça commence probablement par là. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Je ne vois pas. Alors,
Bonjour Alexandre Dufresne, merci à Regard et aux personnes qui ont permis à ce panel d'avoir lieu et probablement d'arriver dans un futur proche de mettre en œuvre cet article 42, notamment via route avec Cédric Chantana. Et je m'associe aux remarques qui ont été faites sur la nécessité d'avoir un organe pluraliste, parce qu'il s'agit en effet de récolter de l'information. Donc le processus d'évaluation commence à la récolte d'information et finit lorsque les recommandations sont mises en œuvre. Et sans intégrer les décideurs, ceux qui sont en mesure de mettre en œuvre ces recommandations, on aura vraiment un problème de reconnaissance du travail effectué. Donc ce qu'a dit Patricia Schultz, Et je m'associe complètement à ça au niveau du pluralisme d'une commission. Au niveau de l'aspect participatif, ça me paraît important qu'un tel organe puisse, pendant son fonctionnement, recevoir des doléances, donc ça d'une manière permanente, ce que ne faisait pas la commission du droit, l'Office des droits fondamentaux avant, n'était pas en mesure de recevoir des doléances. Et ça me paraît important que les gens puissent être écoutés sur les violations qu'ils subissent. Il n'y a pas toujours des associations qui défendent leur intérêt. C'est aussi un peu le but de ce mécanisme, c'est de faire remonter des informations qui ne soient pas forcément déjà défendues par des acteurs de la société civile, qui ne soient pas déjà des questions très politisées, mais qu'on puisse aussi, par ce genre de processus, découvrir une réalité qui peut nous échapper. L'autre aspect que je souhaiterais pour un tel mécanisme d'évaluation, c'est cette approche thématique. Elle a déjà été abordée. Mais je pense qu'il faut laisser le temps à certaines thématiques, je pense à la santé, d'intégrer des gens qui ne travaillent pas forcément sur le droit à la santé, qui ne travaillent pas forcément dans le cadre du droit humain, mais de parler de leur réalité. Et une approche thématique laisserait le temps suffisant à faire remonter un certain nombre d'informations. Ça permettra aussi aux recommandations qui sont faites dans le cadre d'une approche thématique d'avoir plus de poids. Parce que si le processus est d'évaluer l'ensemble des droits fondamentaux, bon, on le voit aujourd'hui, même si vous avez pu faire ce qui est faisable avec les moyens, on voit qu'il y a quelques thématiques qui ressortent et politiquement, c'est ce genre de thématiques qu'on risque de reprendre et le reste peut être facilement oublié. Ce qui serait déjà pas mal si celle-là était reprise, mais on peut en oublier aussi. Donc il faudra laisser le temps. Moi, je n'ai pas de préférence sur est-ce qu'il faut une législature, deux législatures. Bien sûr, il faut un minimum pour avoir l'ensemble du catalogue des droits fondamentaux qui est examiné. Mais je pense que cette approche thématique, elle est indispensable. Je pense aussi, quel que soit le mode de mise en œuvre de ce mécanisme, que ce soit par une loi du Grand Conseil ou que ce soit une décision du Conseil d'État, je pense qu'il faut que le processus soit vraiment bien pensé, qu'il intègre aussi des gens qui soient spécialistes de l'évaluation. Comme je l'ai dit avant, qu'on s'occupe vraiment de récolter de l'information, qu'on ait une approche aussi à la fois qualitative et quantitative. Je pense que les droits fondamentaux sont aussi des histoires individuelles qui devraient être dans le rapport. Je ne vois pas beaucoup de cas. L'approche qualitative n'est pas très présente. C'est vrai que raconter que madame un tel ou monsieur un tel, raconter son parcours, ce qu'il a subi, au niveau des recommandations, ça a plus de poids. Parce que le monde politique peut s'identifier à cette personne, peut comprendre la logique. Et dans la logique d'une histoire individuelle, il y a une série de dysfonctionnements de la part des institutions publiques. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est une série de dysfonctionnements qui fait que la personne se retrouve à plusieurs reprises bafouée dans ses droits fondamentaux. Donc merci en tout cas pour avancer sur ce processus.
Merci. C'est juste une remarque hein, par rapport aux propositions que j'ai entendues. Quel organe à mettre en place? Est-ce qu'il y a une commission? Est-ce qu'il faut mandater la Cour des comptes? J'aimerais juste attirer votre attention, puisqu'il y a un projet de loi qui est en train d'être émergé. Quelles compétences on veut donner à cette structure? Je pense qu'il ne faut pas que ce soit seulement une évaluation d'une situation, de faire des recommandations, mais il faut que ça soit suivi des faits. Concrètement, des mesures soient prises par l'exécutif. Moi, j'étais séduit par cette proposition de la Cour des comptes. Pourquoi? Parce que la Cour des comptes a des réels pouvoirs. Même si elle agace l'exécutif, les exécutifs cantonaux et communaux, par ses rapports, par ses recommandations. Mais là, ça fait vraiment écho, ça fait écho tâche. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'il faut mettre en place. Donc, si à la place de ça, on veut faire quelque chose qui peut donner une lettre. C'est si bon.
Bon, on n'a pas trop posé un pour un, mais il y a cette idée d'avoir ce principe de Paris.
Je ne vais pas me lancer sur l'aspect institutionnel de
droits humains. Oui, peut-être que c'est une question.
Par contre, je pense qu'il y a deux aspects qui sont importants à tenir en compte dans les années à venir. Premièrement, quelque chose que Mme Schulz a mentionné, c'est la question des indicateurs. Vous avez produit un premier rapport qui donne un aperçu de la situation à Genève. Le prochain rapport, comment évaluer s'il y a un progrès, une régression ou une stagnation? Il faut développer ces indicateurs des droits humains qui existent déjà, la méthodologie existe et qui pourrait éventuellement être appliquée par, par qui, la société civile ou autre. Et la deuxième question qui a été abordée, mais de manière un peu rapide, c'est la question de la justiciabilité des droits.
C'est vrai, je pense
quand on parle de droits humains, on parle bien de droits qui doivent être justiciables.
Moi non plus.
Il y a tout un travail à faire au niveau légal, bien entendu.
Le modèle institutionnel, on sait que, et puis le modèle open écouté, c'est plus des experts.
Des fois, la Cour peut être un allié, comme il peut être un désavantage. Peut-être, ce serait bien aussi de regarder à d'autres choses qui ont été mises en place de manière locale dans d'autres pays, comme par exemple l'Ombudsman, qui pourrait éventuellement intercéder de manière plus informelle ou moins les judiciaires dans les cas des
citoyens.
Merci. J'ai entendu deux fois dans vos exposés cours constitutionnel. Je suis allé rapidement voir sur Internet, j'ai vu chambre constitutionnelle. Et puis, est-ce que ces éléments-là ne sont pas des choses qu'on pourrait activer sur la base d'un rapport comme on vient d'avoir là? C'est-à-dire que quand le rapport montre qu'il y a divergence par rapport à la Constitution, je pense que ce serait le moment que ces différentes institutions s'activent et puis fassent en sorte qu'on ramène la réalité à ce qui a été décidé dans la Constitution. Merci.
On va clore les questions sur cette base. Je propose de donner 2 minutes à chaque intervenant pour qu'il puisse répondre et conclure, et ensuite on passera à la conclusion de la soirée. Qui voulait, Madame Schulz? Je crois qu'il faut appuyer dessus pour comprendre.
Ah, faut garder l'appui.
Alors, il faut avoir le doigt en permanence.
Ça a pas l'air de suffire.
Non. Vous avez un micro?
Ah,
merci beaucoup. Moi, il me semble très très important, enfin je suis vraiment heureuse d'apprendre qu'il y a un projet qui est examiné par la Commission des droits humains du Grand Conseil, heureuse d'apprendre qu'à l'unanimité, cette commission avait estimé qu'il fallait agir pour mettre en œuvre l'article 42 sur la mise en œuvre des droits fondamentaux. Donc ça, c'est super important sur le plan politique. Maintenant, c'est la question d'arriver à mettre en place une coalition suffisamment forte pour venir avec un modèle qui tienne la route. Et effectivement, il y a plusieurs possibilités de ce que vous avez dit, Cyril, entre un modèle plutôt, alors, institution cantonale des droits humains, qui, elle, pourrait recevoir vraisemblablement des plaintes individuelles. Ça, c'est une compétence qui est souvent accordée à de tels organismes, ou bien d'autres structures. Moi, je répète ce que j'ai dit. Dans mon expérience, et ça on le voit avec le travail devant les organes de traité, là ce sont les États qui fournissent un rapport et les ONG qui donnent leur vision. Et ce que nous voyons, c'est que parfois les personnes qui sont les plus vulnérables dans une société, les plus dépourvues de droits, sont celles qui ont le moins de possibilités de venir devant un organe de traité, de faire un rapport. Soit parce qu'elles ne connaissent pas la langue, parce que l'ONU c'est affreusement compliqué, parce que ça coûte cher, etc. Donc il faut faire attention d'éviter qu'il n'y ait que certaines ONG qui arrivent à s'exprimer, et du coup on laisse tomber les autres sujets qui sont peut-être tout aussi importants, qui concernent un aussi grand nombre de personnes ou qui concernent des discriminations particulièrement effroyables. Donc là il faut vraiment faire attention, quelle que soit la structure qu'on met en place, à ce que la participation des ONG soit vaste et couvre vraiment l'ensemble. Et j'étais intriguée tout à l'heure par la remarque sur le racisme, il n'y a rien sur le racisme. Bon, moi j'ai aussi lu le rapport en version virtuelle. C'est vrai qu'il y a toute une série de remarques qui sont faites au fil du texte sur l'intersectionnalité des discriminations pour des personnes de nationalité étrangère avec ou sans papier. Donc là on voit que c'est lié aussi à des questions de racisme, c'était plus lié à la question du statut légal, mais vraisemblablement ça a aussi à voir avec de quelle couleur on est dans une société comme la société suisse. Et là, à mon avis, il faut faire attention sur le plan institutionnel pour ne pas rater certaines des discriminations les pires. Voilà.
Alors, monsieur Hôtelier, comme vous voulez. Oui, merci. Très, très brièvement, trois points. D'abord, mes excuses à Alexandre Dufresne pour avoir honteusement oublié son apport. Je plaiderai probablement en vain, l'âge avancé et la mémoire défaillante. Mais c'est vrai, j'avais en tête que c'était Yves Lador qui avait suggéré l'idée, mais je crois que c'était un tandem. J'essaie de me faire pardonner comme ça. Puis je vais tirer la couverture en disant que moi j'ai acheté cette idée tout de suite, si je puis dire. Je trouve que l'idée même à la base de l'article 42 reste effectivement très, très actuelle. Maintenant, deuxième point, pour la question de la Cour constitutionnelle, dans la Constitution on parle de Cour constitutionnelle, mais en réalité c'est la Chambre constitutionnelle dans l'organigramme judiciaire, mais on parle de la même chose. Est-ce que cet organe pourrait tenir ce rôle?
C'est pas la Cour constitutionnelle.
Non, mais est-ce que... Si je reprends la question de monsieur, est-ce que la Cour constitutionnelle pourrait s'inspirer du rapport que nous avons sous les yeux? Elle pourrait le faire, mais c'est un organe qui fonctionne sur une base contentieuse et pas sur une base gracieuse ou qui examine les questions d'office. Donc de ce point de vue-là, le système n'est pas prévu pour permettre à cette juridiction de jouer ce rôle. J'espère que j'avais bien compris votre question, monsieur. Voilà. Et puis le troisième point pour terminer, quel organe pour assurer... longue vie à cet article 42. Je suis très heureux d'apprendre que la Commission des droits humains a avancé dans ses travaux. Moi, je n'exclus pas qu'il puisse y avoir une succession dans l'ordre, qui commence peut-être aujourd'hui avec le dépôt officiel de ce rapport. Peut-être, dans un premier temps, avec des mandats qui sont octroyés au cas par cas par le Conseil d'État, sur une base peut-être un peu empirique, un peu provisoire, avec éventuellement l'apport de la Cour des comptes. Plus j'entends dire que la Cour des comptes n'est pas l'organe adéquat pour ce faire, plus je pense que dans un premier temps, voilà, c'est mieux que rien. Et puis à terme, eh bien effectivement, la création d'un organe spécifique, je parlais d'institution cantonale des droits de la personne humaine, je crois que c'est ce type d'institution qui permettrait, je ne veux pas dire de réconcilier, mais de faire converger toutes les questions, tous les points très intéressants qui ont été évoqués ce soir. Merci de votre attention.
Merci. Cyril. Pour conclure,
M. Mizrahi. Merci, Céline Zuber. Bon, je pense qu'il ne faut pas non plus penser qu'on est en face d'une montagne. Hein. J'entends dire que oui, il faudrait accepter peut-être des solutions intermédiaires, etc. Pourquoi pas? Mais disons, à titre personnel, je pense que... Aussi, la décision de la Commission montre que, en réalité, peut-être qu'on fait une montagne de quelque chose qui n'est pas si compliqué... et qu'on peut mettre sur pied un comité qui réunit les différents acteurs, et que ça ne va pas coûter des millions, et que ça va fonctionner. Moi, je suis un optimiste, et donc je souhaite vraiment qu'on soit ambitieux. J'aimerais juste revenir sur quelques éléments qui ont été abordés aussi par mes collègues, sur le rapport avec la Chambre constitutionnelle. Je pense que la Chambre constitutionnelle, je sais que c'était un élément... qui était émotionnellement aussi très important au sein de la Constituante, mais c'est qu'une pièce du puzzle. C'est la pièce du puzzle qui va traiter les contentieux contre des lois du Grand Conseil. Et on voit que ça fonctionne, hein, ça fonctionne à plein régime. Vous avez certainement entendu parler de ce recours sur les questions de loi sur la laïcité. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que les droits fondamentaux sont traités d'une manière contentieuse par toutes les juridictions potentiellement, hein, y compris la chambre administrative pour les litiges avec l'État, etc., les litiges de personnes privées face à l'État, etc., etc. Donc il y a vraiment plusieurs pièces de ce puzzle. J'espère bien entendu que la Chambre constitutionnelle va prendre connaissance de ce rapport et des rapports suivants et des recommandations de cette institution qui sera chargée de l'évaluation périodique. Mais tout autant que j'espère que tous les autres organes de l'État qui sont responsables de mettre en œuvre les droits fondamentaux vont le faire aussi. Donc il ne faut pas concentrer les attentes uniquement sur cette chambre constitutionnelle. C'était le premier élément que je voulais donner. Le deuxième élément qui fait suite aussi à l'intervention de Michel Hôtelier, c'est par rapport au souci d'Alexandre Dufresne et aussi de vous sur les personnes qui n'arriveraient pas à faire entendre leurs revendications à travers le tissu associatif. C'est quelque chose qui m'interpelle et je pense qu'il faut qu'on ait une possibilité la plus facile possible, soit sous forme de rapport, soit sous forme de doléance. Alexandre Dufresne a utilisé le terme de doléance que j'aime bien. En tout cas, de recevoir des communications, mais il ne faut pas que ça se substitue ensuite au travail des tribunaux. Donc il faut vraiment faire bien la distinction entre le contentieux et puis les communications qui vont permettre de compléter les apports de ce qu'on appelle la société civile, en fait, les associations. Et puis, je crois, oui, l'importance aussi que toutes les problématiques soient représentées, c'est la délicate question de savoir comment seront nommées les personnes membres de ce comité ou de cette institution. Mais je pense, de nouveau, ça plaide pour ce comité plutôt que la Cour des comptes, parce que ça permet d'avoir une multiplicité de spécialistes qui vont pouvoir représenter le plus possible de problématiques en termes de droits humains. Et puis, ma dernière remarque sera sur le fait que la commission ne va pas travailler en vase clos, donc on va bien entendu probablement consulter sous une manière ou une autre. Je ne sais pas encore laquelle, je ne veux pas brûler la politesse à la commission, mais si vous souhaitez être entendu, sachez que voilà, tout le monde peut faire une demande d'être entendu par la commission, comme ça se fait devant les autres commissions. Les auditions sont possibles, donc vous pouvez vous adresser au secrétariat du Grand Conseil ou à mon adresse électronique que vous retrouvez sur le site du Grand Conseil. J'espère que ma boîte ne va pas exploser de demandes. Voilà, merci beaucoup.